Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Et nous continuons notre étude de ce livre. Nous sommes au chapitre 3. Et nous allons prendre la lecture à partir du verset 12. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12. Et voici la parole de Dieu. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous sommes dans cette partie de la lettre aux Hébreux, où l'auteur avertit ses lecteurs, et il le fait avec un cœur de pasteur. Son souci, quand il écrit cette grande exposition, était un souci pastoral. Et on le voit très clairement dans ce passage, comme celui-ci, au chapitre 3. Et il exprime ici sa crainte, comme il le dit au verset 13, « qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché ». Son but, en écrivant, c'est pas seulement dénoncer une doctrine aussi précieuse soit-elle, mais c'est d'appliquer son enseignement, de l'apporter avec force à ses lecteurs, afin qu'ils persévèrent dans la foi, en particulier dans les moments difficiles. La pensée de perdre même un membre de ce troupeau à cause de l'incrédulité est suffisante pour motiver l'auteur dans ses exhortations assez fortes. Cet accent explique la répétition du thème principal de ce chapitre 3, ce verset qui revient « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte ». Et on l'a vu la dernière fois, la révolte, la rébellion dont il parle est celle qui est enregistrée en Exode 17, en Nombre 14, quand les Israélites ont refusé de faire confiance à l'Éternel pendant leurs épreuves dans le désert, après que Moïse les ait conduits hors du pays d'Égypte, hors de leur esclavage, après cette délivrance d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, Dieu a dirigé les Israélites sur des chemins difficiles dans le désert pour tester leur foi, leur confiance en lui. Ces épreuves, on l'a souligné, sont analogues à cette vie présente que nous vivons, où nous allons subir des épreuves, des tentations, qui, elles aussi, vont révéler la qualité de notre foi. Et les Israélites étaient lassés par la faim, par le danger, par la fatigue, et n'ont pas cru dans la parole de Dieu qui leur a été adressée à travers Moïse. Et en s'inspirant de cet exemple, l'auteur de cette lettre aux Hébreux veut avertir ses lecteurs de persévérer et les encourager à persévérer, les avertir de ne pas abandonner, de ne pas échouer, surtout quand on a le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est glorifié comme notre chef et qui nous accompagne pendant ce pèlerinage sur terre. Et l'auteur donc continue dans ce passage que nous venons de lire à partir du verset 12, il continue son argumentation qu'il avait commencé dans les versets précédents. Et il continue de parler de la rébellion contre Dieu. C'est le premier point. Et dans ce point, on a trois sous-points. Il enseigne trois leçons à partir de cette génération d'Israélites. La première, c'est qu'un bon début ne garantit pas une bonne fin. On le voit au verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ?» Ces gens avaient vu les grands miracles que Dieu a opérés en Égypte. Ils avaient vu la séparation de la mer Rouge, quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, quand ils ont commencé à éprouver des difficultés, ils se sont détournés, révoltés contre Dieu. Même le plus impressionnant des débuts ne garantit pas une persévérance dans la foi. Et on voit combien peu on peut compter sur des expériences émotionnelles qu'on a eues dans la vie. Beaucoup de personnes comptent sur un événement émotionnel dans le passé, un moment où ils ont récité une certaine prière, un moment où peut-être ils se sont avancés suite à un appel qui a été lancé. Aucun d'entre nous n'aura jamais une expérience aussi vivante que cette génération d'Israélites. Mais leur bon commencement ne pouvait jamais remplacer une confiance quotidienne dans le Seigneur pour une longue marche dans la foi. Alors certains vont objecter que cela entre en conflit avec l'enseignement biblique de la sécurité éternelle. La Bible enseigne que tous ceux qui font véritablement confiance au Seigneur peuvent avoir cette confiance en sa pleine suffisance en tant que notre Sauveur. Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Mais on doit se rappeler que lorsque le Seigneur Jésus prononce ces paroles, Judas Iscariote était présent. Mais parce qu'il n'avait pas la foi, la promesse n'était pas pour lui. Si on veut l'assurance de notre salut, notre foi doit persévérer dans l'épreuve. Si, comme l'apôtre Pierre le dit dans ce passage qui a été lu tout à l'heure, si on veut affermir notre vocation, notre élection, alors on doit porter le fruit. La vie doit se manifester. Elle se manifeste par le fruit du salut, le fruit de l'esprit. Si notre confiance est dans le Seigneur Jésus-Christ, dans lui seul, alors on peut être sûr de notre salut. Mais ce passage est un avertissement contre toute complaisance dans notre foi. Un commentateur résume l'enseignement biblique au sujet de la persévérance. Il dit « Certains parlent comme s'il n'était pas nécessaire pour un chrétien de persévérer dans cette espérance, au motif que, puisque Dieu persévère avec nous, notre persévérance est inutile. Nous sommes sauvés et nous le serons quoi que nous fassions. » Cela n'est pas enseigné dans la Bible. Il est vrai que Dieu persévère. Il est vrai qu'une fois qu'il a commencé une bonne œuvre en nous, il continuera à l'accomplir jusqu'au jour de Jésus-Christ. Mais parce qu'il persévère, nous persévérerons aussi. Il est terrible de lire que tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte se sont rebellés contre le Seigneur. Il y a deux exceptions qu'on connaît, Josué et Caleb. Mais même après un si grand commencement comme l'Exode, tout le peuple en a fait l'expérience et malheureusement s'est rebellé contre le Seigneur. Combien ce fait qui est frappant plaide contre toute complaisance de notre part. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La deuxième chose, on apprend ici combien il est terrible de s'endurcir contre Dieu. L'auteur nous avertit de manière sobre au verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le sens des mots est évident. Un cœur endurci est le contraire d'un cœur tendre. Un cœur tendre est facilement pénétré par la parole de Dieu. Il est facilement impressionné par l'enseignement de la parole de Dieu. Il est ému par l'amour de Dieu. Il est touché, il est conquis par les grandes œuvres de rédemption de la part de Dieu. Et c'est une chose terrible d'avoir un cœur endurci contre Dieu, parce qu'alors sa parole est assise sur le cœur et elle n'entre pas jusqu'à ce qu'elle soit arrachée, ne soit jamais saisie, jamais aimée, jamais crue. Seigneur Jésus en a parlé dans la parabole des quatre sols. La semence est semée, elle est enlevée. L'exemple le plus frappant dans la parole de Dieu est sans doute celui de Pharaon. Malgré les démonstrations les plus fortes de la puissance de Dieu, malgré les expressions les plus claires de la volonté de Dieu que Moïse a témoigné, Pharaon a résisté de manière obstinée jusqu'à sa propre destruction. Et c'est terrible que ces Israélites, ces mêmes gens qui ont vu l'exemple de Pharaon, qui ont échappé à son régime oppressif, ces gens ont suivi l'exemple de Pharaon. Eux aussi étaient durs de cœur. Après tout ce que Dieu avait fait, ils se sont plaints de lui dans les difficultés. Ils ont accusé Dieu de leur faire du mal, malgré ses nombreuses démonstrations d'amour. On voit donc pourquoi un tel cœur est appelé mauvais ou incrédule au verset 12, car il se détourne du Dieu vivant. Au verset 17, ceux qui ne croient pas sont décrits comme ceux qui péchèrent. Au verset 18, on nous dit qu'ils ont désobéi. Le péché, c'est la désobéissance, c'est l'échec d'écouter, d'obéir à la parole de Dieu. Et dans les récits de cette génération, dans le livre de l'Exode ou dans le livre des Nombres, on lit une succession de péchés, un péché après l'autre. Le peuple s'endurcit, se détourne de Dieu. Le grand péché sur lequel l'auteur de cette lettre se concentre est celui de l'incrédulité. Il y a ici une idée importante, à savoir que l'incrédulité est à la racine de tout péché. Les péchés spécifiques sont comme des fruits pourris qui sont accrochés à un mauvais arbre. Ce n'est pas le vrai problème, ce n'est pas la maladie, c'est juste un symptôme. Si on est cupide, haineux, égoïste, malhonnête, c'est une preuve de choses mortes, pourries, qui sont plus profondes à l'intérieur de nous. Les mauvais fruits poussent sur un mauvais arbre. Le péché pousse de notre nature corrompue, de notre nature pécheresse. Et plus profondément encore, il y a un système racinaire pour tout arbre. L'incrédulité est le système racinaire qui nourrit tout l'arbre pourri du péché. Alors que le contraire, c'est la foi en Dieu qui nous pousse à lui obéir, à l'écouter. Et si Pharaon était un exemple d'incrédulité, Noé est un exemple de foi. Il a cru à la parole de Dieu. Quand Dieu a annoncé le déluge, il est allé de l'avant. Il a construit l'arche. Mais parce que les Israélites n'avaient jamais connu Dieu, n'avaient pas cru en ses promesses, ils se sont rebellés contre lui et ils ont péché dans le désert. La question de la foi contre l'incrédulité est au cœur de toute question spirituelle. Notez que le manque de preuves n'est pas la cause de l'incrédulité. Ces Israélites avaient toutes les preuves que l'on pouvait désirer. mais parce que leur cœur était dur. Les preuves n'ont pas suscité la foi. De même, les gens aujourd'hui ne rejettent pas le Seigneur Jésus-Christ pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons morales. Ils rejettent la parole de Dieu parce qu'ils ont un amour plus grand pour le péché. Et leur amour pour le péché exige une dureté de cœur envers la parole de Dieu. La philosophie, elle vient plus tard. Ce n'est que le fruit de la dureté de cœur envers la parole de Dieu, le fruit de l'amour pour le péché. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette génération d'Israélites, un durcissement du cœur que l'auteur de cette lettre aux Hébreux désire que nous évitions. La troisième chose que nous pouvons souligner, c'est que l'auteur de cette lettre nous oblige à faire face à la réalité de la colère de Dieu contre le péché. Verset 17 nous dit que Dieu a été irrité contre ceux qui ont péché dans l'incrédulité. Verset 18, on lit qu'à cause de leur attitude, Dieu a juré qu'il n'entrerait jamais dans son repos. Et dans les deux cas, on voit la colère de Dieu contre le péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent la colère comme une réponse inappropriée de la part de Dieu face au péché. Ils disent que Dieu devrait être plus comme nous. Il ne devrait pas prendre le péché avec autant de sérieux. Mais contrairement à nous, Dieu est parfaitement saint, parfaitement pur. Sa colère brûle contre le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Quand on parle de la colère de Dieu, on ne veut pas dire que Dieu fait une crise de colère, mais plutôt que la colère de Dieu est sa réponse délibérée dans son jugement contre le péché et contre les pécheurs. Dans son livre « Connaître Dieu », J.I. Packer écrit ceci, « Toutes les colères de Dieu sont justes. Si Dieu prenait autant de plaisir au mal qu'au bien, serait-il un bon Dieu? Si Dieu ne luttait pas contre le mal dans ce monde qui est le sien, serait-il moralement parfait? Non, bien sûr. Eh bien, ce que la Bible appelle la colère de Dieu est précisément cette réaction au mal qui fait nécessairement partie de la perfection morale de Dieu. À cause de leur incrédulité et de leur péché qui a suivi toute cette génération d'Israélites, ce peuple que Dieu avait fait sortir de l'esclavage en Égypte, ce peuple est mort dans le désert. L'auteur demande au verset 17, « Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?» C'est la propre nature de Dieu, sa perfection qui exige ce genre de réponse au péché. Un commentateur dit ceci, « La Bible dit clairement que Dieu n'est pas impassible ou indifférent face au péché humain. Il est un feu dévorant. Sa réaction inévitable au péché est la colère. Dieu s'en soucie et il n'a pas permis aux Israélites pécheurs d'entrer dans le repos. » On entend souvent dire que Dieu punit le péché, mais pas le pécheur. Mais regardez la preuve du contraire ici. Ce n'est pas l'incrédulité qui est morte, qui a laissé ses hôtes sur les sables du désert. Ce sont les incroyants eux-mêmes. Ce sont eux qui sont morts. Et de même, Dieu jettera les pécheurs incrédules dans les feux de l'enfer, non seulement leurs péchés, mais les pécheurs qui ne se repentent pas de leurs péchés seront condamnés. La colère de Dieu est délibérée. Elle n'est pas instable, elle est persistante, elle n'est pas éphémère. Un commentateur a fait le calcul, a commencé par le nombre d'adultes mâles qui étaient sortis d'Égypte. Et comme on le lit en Nombre 1, verset 46, ils étaient au nombre de 603 550. Puis il a ajouté un nombre probable de femmes adultes et d'enfants. Il a calculé qu'en moyenne, 90 adultes Israélites sont morts chaque jour pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération ait disparu. Chaque jour, les Israélites étaient amenés à se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Alors cela soulève une autre question. Est-ce que cela signifie que tous ces Israélites ont souffert de la colère éternelle de Dieu? Qu'ils sont non seulement morts dans le désert, mais qu'ils sont tous allés en enfer? Alors d'une part, la mort de ces Israélites incrédules est certainement destinée à indiquer la colère de Dieu dans le jugement plus grand qui enverra les hommes et les femmes en enfer pour toujours lors du jugement dernier. Mais d'autre part, il n'est pas dit dans la parole que tous ces Israélites ont été condamnés à la damnation éternelle. Leur problème était l'incrédulité. L'incrédulité est ce qui cause la perte de l'occasion d'entrer dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Toute personne qui ne s'est pas repentie, qui ne s'est pas confiée à Dieu pendant ces 40 années, est certainement morte sans connaître le salut de Dieu. Mais on peut espérer qu'un nombre se soit repenti, qu'ils ont cru, qu'ils ont été pardonnés. Parce qu'après tout, pendant ces 40 années dans le désert, pendant ces 40 années de leur châtiment, ils avaient le ministère de Moïse, d'Aaron. Ils avaient le tabernacle, ils avaient les sacrifices. Ils avaient ces moyens de grâce qui leur étaient offerts quotidiennement. Mais leur occasion perdue d'entrer dans la terre de la promesse est un avertissement contre les périls de l'incrédulité. L'exemple d'Israël est suffisant pour nous alarmer en ce qui concerne la question de l'incrédulité. Et c'est dans cet esprit que, avec peut-être beaucoup de sérieux, avec peut-être un sentiment d'urgence, on se tourne vers le deuxième point, qui est le remède contre l'incrédulité que nous donne l'auteur dans ce passage. Deuxième point, le remède. Et ce remède se présente sous la forme de deux exhortations. Tout d'abord, l'auteur avertit « Prenez garde, frère. » On pourrait dire « Attention. » Et à cela, il résout au verset 13 « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » C'est une excellente instruction pour nous aujourd'hui. On doit exercer une garde vigilante sur nos propres cœurs, mais aussi venir à côté des autres frères et sœurs dans l'Église pour les exhorter à faire de même. Jean Calvin explique pourquoi cela est nécessaire. Il dit « Comme par nature, nous sommes enclins au mal, nous avons besoin de diverses aides pour nous retenir dans la crainte de Dieu. À moins que notre foi ne soit élevée de temps en temps, elle sera prostrée. À moins qu'elle ne soit réchauffée, elle sera congelée. À moins qu'elle ne soit réveillée, elle deviendra torpide. L'auteur de la lettre voudrait que nous nous stimulions les uns les autres par des exhortations mutuelles, afin que Satan ne se glisse pas dans nos cœurs et par ses erreurs nous éloigne de Dieu. » Le terme grec qui est utilisé, qui est traduit par « exhorter », est le terme « parakaleo », un terme qui veut dire, d'une part, « encourager »,« réconforter »,« consoler », mais ça veut aussi dire « inviter »,« interpeller »,« persuader » ou même « implorer ». Et l'image est donc que l'on doit se côtoyer chaque jour, nous dit l'auteur, pour s'exhorter mutuellement dans la pratique de la foi chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une activité individuelle. C'est une activité d'équipe. C'est ensemble ensemble, que nous partageons les luttes, les fardeaux, que l'on pourra porter les fardeaux des uns des autres, que l'on pourra s'encourager mutuellement. Soyons vigilants, nous dit l'auteur, pour ces choses dans le corps de Christ, pour s'assurer qu'aucun de nous ne tombe à cause de la tromperie du péché. Tant qu'il est dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette ère présente d'épreuves, avec des opportunités, mais aussi des dangers, comme ceux auxquels les Israélites ont fait face. Veillons, exhortons-nous les uns les autres dans les choses de la foi. On doit surveiller, nous dit l'auteur, la tromperie du péché. Et la Bible attribue cette étiquette à un certain nombre de choses. Elle parle souvent de faux enseignants qui nous égareraient par leur tromperie. L'apôtre Paul met en garde contre eux dans sa lettre aux Romains, chapitre 16, verset 18. « De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Colossiens 2, verset 8, dit la même chose sur les philosophies mondaines. Et Proverbe 12, verset 5, nous dit que les desseins des méchants ne sont que fraude. Doit donc être vigilant contre les enseignements séduisants mais mensongers qui peuvent tromper. Et cela devient pire parce que la Bible continue en disant que nos cœurs même sont trompeurs. Le verset peut-être le plus célèbre à cet effet, c'est Jérémie 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22, l'apôtre Paul nous dit que notre nature même, en dehors de l'œuvre de salut de Dieu, notre nature même est corrompue par les convoitises trompeuses. Cela devient personnel. Je ne peux pas faire confiance à mon cœur. Mes désirs même ne sont pas dignes de confiance. Et celui qui est sage se rend compte que c'est la réalité, que les choses pour lesquelles on aspire sont souvent des choses qui sont vaines, parfois même idolâtres. Et par conséquent, il va chercher l'exhortation des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et plus menaçant encore, c'est la présence d'un trompeur réel qui est en liberté dans ce monde pour encore un temps. Le diable est un grand séducteur qui trompe les hommes et les femmes dans la folie, dans l'incrédulité, comme il a séduit Ève dans le jardin. Il se déguise même en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et puis il y a le péché lui-même, dont la qualité, dont l'une de ses qualités est que le péché est trompeur. On ne peut pas et on ne doit pas jouer avec le péché, sinon on est entraîné, on est piégé. Je peux prendre un exemple qui est malheureusement bien répandu dans ce monde aujourd'hui. Un homme qui est tenté de quitter sa femme et ses enfants pour une autre femme. Le péché semble séduisant. Elle est tellement plus merveilleuse que la femme ordinaire dont il s'est lassé. Elle l'admire tellement. Elle joue avec son égo. Elle serait mieux pour lui, même si elle brise les tabous. Lui, il serait mieux, il serait plus heureux avec elle, même si c'est dans l'adultère. Les gens autour comprendront, ils vont s'en remettre. Ses enfants, finalement, seront heureux pour lui. Mais c'est une grande tromperie. Ne sera pas plus merveilleux, parce que le problème de son mariage, c'est son propre cœur. Il se lassera bientôt de son nouvel amant. Elle l'admire maintenant, mais elle pensera moins de lui quand il perdra son travail, sa réputation, son argent, son estime de soi. Ses enfants ne s'en remettront pas. porteront les cicatrices. Ils seront brisés. Le péché dit que ce sera mieux, qu'il sera heureux. Mais c'est une tromperie. Il avance dans la misère, dans la ruine, amenant la honte sur lui-même. Et s'il est chrétien, il amène le scandale sur l'Église et même sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le péché promet le plaisir, mais il provoque la douleur. Le problème, c'est que nos cœurs sont disposés à être trompés. Et combinez cela avec la réalité que le péché est trompeur dans sa nature. Et on voit pourquoi on a un si grand besoin de communion, d'exhortation, d'avertissement. Dès les premiers stades de la tentation, on a besoin d'aide pour veiller sur des circonstances qui sont spirituellement dangereuses auxquelles on est confronté. Cela peut être dans notre travail, dans nos familles, dans nos relations ou dans des tentations spécifiques qui sont par nature hostiles à la foi chrétienne. On a donc besoin de s'exhorter les uns les autres, de peur que certains ne tombent en proie à la tromperie du péché et que cela ne conduise à l'endurcissement de nos cœurs contre Dieu. Le péché n'est pas simplement quelque chose que l'on fait. On le sait, le péché est un pouvoir. C'est comme une armée ennemie, comme une meute de loups qui entoure le troupeau et qui fonce pour éliminer les cibles probables. Par conséquent, comme le dit un commentateur, les croyants ont la responsabilité collective et individuelle de veiller au bien-être spirituel de leurs semblables. Ils doivent considérer cette responsabilité comme une obligation sacrée et faire preuve d'une fidélité totale. Parce que de la tromperie grandit la dureté de cœur. C'était le sort des Israélites qui sont venus sous la colère de Dieu. La communion chrétienne, y compris la prière, l'étude de la Bible, l'amitié réelle, véritable, est un rempart contre la tromperie du péché. Dans une telle compagnie, les arguments du péché vont perdre leur force. Et on est renforcé dans la foi et dans l'obéissance. Notre but est de persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Notre stratégie, c'est une vigilance mutuelle. C'est une bonne cause. Dans sa grande allégorie de la vie chrétienne, le voyage du pèlerin, John Bunyan montre sa compréhension de l'importance de la communion entre croyants. Le héros, qui s'appelle Chrétien, trouve de la compagnie avec un autre croyant qui s'appelle Plein d'espoir. Et Bunyan écrit, la version française dit, « Plein d'espoir se lia d'amitié avec le pèlerin et lui dit qu'il voulait désormais l'accompagner dans son voyage. » La version anglaise dit, « Ils sont entrés dans une alliance fraternelle. Ils ont accepté d'être des compagnons. » Merveilleuse déclaration. Et cela rappelle la description des hommes pieux au temps du roi Asa, en 2 Chroniques 15, verset 12. « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. » Et Bunyan raconte que de cette façon, Chrétien et Plein d'espoir ont voyagé ensemble et leur compagnie a été très profitable. À partir du chapitre 14, dans le voyage du pèlerin. Et assez rapidement, ils sont tombés sur un autre voyageur, un homme qui s'appelle Intérêt personnel, qui venait de la ville Beau Discours. Quand ils ont mis leur discernement ensemble, chrétiens et pleins d'espoir ont réalisé qu'il valait mieux éviter ce personnage. Puis un peu plus loin, ils ont rencontré un groupe dirigé par un monsieur qui s'appelle Accapare Tout, qui a essayé de les inciter à chercher un gain malhonnête. Et là encore, ensemble, ils l'ont réprimandé. Ensuite, ils ont rencontré Démas, qui les a appelés à quitter le chemin, qui a promis un endroit rempli de richesses du monde. Et cette fois, plein d'espoir, a été trompé. Il a voulu jeter un coup d'œil. Mais Chrétien l'a averti. J'ai entendu parler de cet endroit. Le trésor est un piège pour ceux qui le cherchent. Ne faisons pas un pas de plus. Continuons notre chemin. Ils ont poursuivi. Plus tard, ils sont arrivés au château du doute. Ils ont été jetés dans un donjon terrible. Et là, c'est Chrétien qui a vacillé. Il était en proie à la tentation du géant nommé Désespoir, qui invitait les gens à se tuer comme seul échappatoire. Mais plein d'espoir, avait gardé la foi, se rappelant la parole de Dieu. Et avec son aide, Chrétien a trouvé la clé, appelée promesse, qui a ouvert la porte pour qu'il s'échappe du château de doute. Voilà, c'est ensemble. Et c'est ce genre d'aide que l'on doit donner les uns aux autres. Chacun de nous, dans notre faiblesse, dans le doute, étant aidé par la force et la foi de notre frère ou de notre sœur en Christ. Chacun aidant l'autre à son tour, afin qu'ensemble, nous puissions continuer et persévérer. Et pour conclure, on a dit plutôt qu'un bon début ne suffit pas, que nous sommes appelés à persévérer à travers les difficultés, en tenant ferme, en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. L'auteur le répète dans son résumé, les versets 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » C'est la persévérance qui met à l'épreuve, qui prouve, qui démontre le fait que nous sommes vraiment unis à Christ. Mais notez ce que nous devons garder jusqu'à la fin. Verset 14. L'assurance que nous avions au commencement. De quelle assurance s'agit-il? Ce n'est pas une assurance dans nos propres œuvres ou dans nos propres forces, mais c'est l'assurance de la puissance du salut qui est en Jésus-Christ. C'est notre assurance originelle, c'est-à-dire le message même de l'Évangile qui nous a sauvés en premier lieu. C'est ce dont nous avons besoin pour persévérer jusqu'à la fin. L'Évangile n'est pas un message que nous devons entendre une seule fois au début de la vie chrétienne. L'Évangile qui fait de nous des chrétiens la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est à la gloire de Dieu. C'est cet Évangile qui nous garde dans la foi. Ce que nous devons faire, nous dit l'auteur, c'est de proclamer l'Évangile les uns aux autres. Avec fidélité, nous rappelant tout ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ, tout ce que cela signifie, toutes les implications, afin que nous ne reposions pas sur nous-mêmes, mais que nous nous reposions sur le Seigneur Jésus-Christ et lui seul, et sur la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ, et qu'aucun de nous ne soit endurci par la tromperie du péché. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, qu'il nous aide à les méditer, à les vivre, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.